Ils sont très impatients, mais vous le savez, 7h47, débat éco du vendredi, on y vient, Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ce matin, quel avenir pour Facebook? 2 milliards 800 millions d'utilisateurs à travers le monde, je ne parle même pas de ses filiales Instagram, Messenger et WhatsApp. Facebook secoué par une double secousse cette semaine, une panne géante de 7h, c'était lundi, et puis le lendemain, le témoignage devant le Congrès américain d'une de ses anciennes informaticiennes, Frances Haugen, devenue lanceuse d'alerte, qui accuse Facebook, entre autres, de mettre en danger la santé mentale de nos enfants. Cette semaine marque-t-elle un tournant majeur pour Facebook et pour son patron Mark Zuckerberg, Dominique ?
Alors, avec Facebook, il faut toujours faire attention parce qu'on a souvent dit qu'il y avait des virages importants et que le vent avait tourné. Vous vous souvenez de Cambridge Analytica en 2018 qui avait fait, et finalement Facebook s'en est complètement remis. Mais je crois réellement, néanmoins, que le vent tourne. D'abord parce que, vous l'avez dit, il s'est passé quelque chose à la fois sur la scène et dans la coulisse. Sur la scène, c'est cette panne. Donc des milliards de personnes ont pu constater pendant quelques heures que WhatsApp, Instagram, Messenger et le fil de Facebook était en panne. Chacun d'ailleurs a pu être renvoyé à sa propre addiction si c'était le cas. Mais l'essentiel, c'est ce qui s'est passé dans la coulisse, donc le lendemain, une audition au Congrès de cette lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui est une ancienne, qui est passée chez Facebook, un certain temps chez Facebook, qui a publié des documents dans le Wall Street Journal, et en gros, qui a sorti des documents pour dire que Facebook sait ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand il y a des addictions chez les adolescents, les 11-15 ans. C'est ce qui se passe quand les algorithmes de Facebook ont des conséquences politiques de radicalisation. Et donc, je crois qu'avec cette audition à très grand spectacle, elle est passée à CBS, elle est sur CBS, je crois que Facebook a rencontré sa Greta Thunberg. La Greta Thunberg, vous savez, how dare you? Comment osez-vous adresser au monde sur le climat? Et il me semble que cette lanceuse d'alerte est en train de devenir, non pas une icône évidemment, mais un point, un turning point, un point essentiel, un tournant, voilà, pour la vie de Facebook. Et avec cette comparaison qui est assez géniale, sur le tabac, l'industrie du tabac, de dire, au fond, Facebook, c'est aussi dangereux que ce qui s'est passé pour le tabac. Il y a eu un lobbying et une négation de tous les dangers de l'industrie du tabac pendant les années 50, 60, 70. Et Facebook, il se passe la même chose. C'est une image assez frappante.
Thomas Piketty, tournant.
Oui, alors ça dépend vraiment de ce que le Congrès états-unien va faire et ça dépend de ce qu'on va faire en Europe parce qu'on peut pas tout attendre des États-Unis sur cette histoire. Mais c'est vrai que ce que Frances Haugen a montré devant le Congrès, c'est vraiment la preuve irréfutable à partir de documents internes de Facebook que les soi-disant recherches que Facebook mène en interne en fait sont complètement instrumentalisées, sont faites de façon complètement interne. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des problèmes, c'est-à-dire que quiconque veut utiliser les données de Facebook pour se rendre compte des modes de consommation, des effets politiques, des effets nocifs, en fait, doit passer par les fourches-collines de Facebook qui valident ou pas les projets de recherche et tout ça rend très difficile toute évaluation. Donc après, pour l'instant, sur les propositions, je pense qu'on est encore au milieu du guet. C'est-à-dire, Frances Haugen a fait des propositions dans le Congrès qui pourraient avoir un impact, par exemple sur Instagram, de dire, voilà, il faut que ce soit non pas dès 13 ans, mais dès 16 ans ou 18 ans, en tout cas de vérifier la nocivité. Et puis il y a surtout cette fameuse proposition de rendre les plateformes responsables, comme des éditeurs de presse, de ce qu'elles publient. Vous savez, il y a cette exception pour les plateformes qui fait qu'elles, elles ont les avantages et elles ont tous les bénéfices des revenus publicitaires, d'ailleurs qu'elles piquent aux médias classiques, mais par contre, elles ne sont pas responsables de ce qu'elles produisent, ce qui leur permet de faire du buzz dans leurs algorithmes en mettant les choses qui apportent le plus de clics, qui peuvent être des fake news, qui peuvent être des choses politiquement très douteuses, sans jamais être responsables. Et donc là, la proposition que fait Frances Haugen, mais qui est soutenue, c'est de dire, on va changer l'article 213 du Code des États-Unis pour rendre responsables les plateformes. C'est très important potentiellement, mais je pense que ça suffit pas. C'est-à-dire que la régulation des plateformes, pour moi, doit aller très très au-delà de ce type de mesure.
Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas d'accord avec vous sur le point d'entrée de ce qui peut être le combat américain du Congrès. Je ne pense pas que l'article 213 que vous mentionnez, la responsabilisation sur le contenu, fonctionnera aux États-Unis. Ils sont tellement attachés à la liberté d'expression que ça n'est pas par là que ça.
Ça s'applique aux médias en ligne. Ça s'applique.
Non, mais c'est un pari que je prends. Je crains que ce soit pas le bon mode d'entrée. Est-ce que le bon mode d'entrée, ça n'est pas plutôt d'attaquer Facebook par l'argument économique, qui est de dire, au fond, il y a un système d'algorithme. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le principe d'engagement. Le principe d'engagement, c'est-à-dire, plus une information circule vite et partagée, mais c'est la vitesse de la circulation qui compte beaucoup. Plus elle circule vite, plus elle aura de succès et elle sera monétisée auprès des annonceurs. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seules les informations les plus outrancières et radicales sont monétisées de la force.
Et ce sont celles qui circulent le plus vite.
Voilà. Et c'est, vous savez, il y a un grand spécialiste en France qui s'appelle Frédéric Filloux qui dit, qui résume ça en disant la nuance et l'assurance de l'inexistence sur Facebook et la radicalité et la garantie de diffusion. Moi, je dis ça sous une autre forme. C'est l'inversion de la règle de Saint Thomas. Vous savez, Saint Thomas dit tout simplement, je ne crois que ce que je vois. Et sur Facebook, c'est l'inverse. Je ne vois que ce à quoi je crois. Et on est dans un mode qu'il faut inverser. Et donc, techniquement, est-ce que économiquement, il vaut mieux casser ce système d'engagement?
Il faut faire les deux. Je pense que non.
Mais comment est-ce qu'on contraint Facebook?
Je pense que
une question qui vaut pour les Américains, qui vaut aussi pour les Européens.
Absolument. C'est-à-dire, je pense que sur toutes les plateformes systémiques, alors il y a eu une proposition à la Commission européenne de dire, voilà, si vous avez plus de 10% de la population qui utilise une plateforme, donc plus de 45 millions de personnes sur 450 millions d'Européens, vous devenez une plateforme systémique. Après, la question, c'est jusqu'où on va dans la régulation? Et moi, je pense qu'on devrait avoir, pour ces plateformes systémiques, une véritable, en fait, nationalisation des algorithmes, dans le sens où on devrait avoir une régulation extrêmement stricte des algorithmes par la puissance publique qui en fait reprend en main ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans les algorithmes.
Parce que donc Facebook ouvre le moteur complètement.
Un régulateur public et il faut une agence de régulation publique qui puisse prendre connaissance de ces algorithmes, mettre des directrices très strictes. Alors, il ne s'agit pas d'écrire tous les détails de l'algorithme, mais sur les paramètres qui d'un point de vue de politique publique nous semblent pertinents, tout ce qui concerne l'addiction, mais aussi, vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement pervers sur Facebook et sur beaucoup de plateformes comme ça. C'est-à-dire que vous payer pour avoir plus d'audience. C'est-à-dire, vous commencez par mettre un post, vous croyez que ça va atteindre vos amis ou les gens que ce type de post a intéressé, mais en fait, on vous propose sur un bouton payer 100 euros, payer 1000 euros pour booster votre pouce, comme il dit. C'est-à-dire, en fait, les gens en face vont voir plus souvent ce que vous dites simplement parce que la personne en face a payé. Donc, c'est comme de la publicité, sauf que personne ne sait que c'est de la publicité. C'est-à-dire, ça arrive sur votre mur Facebook. Donc, c'est par rapport à la publicité native qu'on voit dans les médias traditionnels, qui est déjà une sacrée perversité, mais qui, normalement, c'est inscrit que c'est de la publicité native. Là, vous ne voyez même pas. Et donc, sur la régulation du débat public, et sur qui influence qui dans le débat public, vous voyez que là, on est complètement sorti de la route. Et le fait qu'on laisse faire ça, que la puissance publique n'ait toujours pas repris ça en main, pour moi, c'est incompréhensible. Et donc ça, il ne faut pas attendre les États-Unis. Il faut le faire tout de suite.
Est-ce que cette reprise en main est possible, Dominique?
Non, mais la régulation, oui, la nationalisation. Alors là, j'avoue que
nationalisation de l'algorithme, Dominique, vous avez compris ce que j'ai dit.
C'était bien sûr.
On ne peut plus les laisser faire les algorithmes.
Ce que je veux dire, c'est que dans un pays, prenons un exemple, dans un pays comme la France, qui considère que une partie de la population considère que l'application tous anti-Covid et sans parler du pass sanitaire est une immixtion dans la vie privée absolument inouïe. Alors vous pensez que la nationalisation de l'algorithme, je crois qu'on est très très loin. Crois que l'Europe s'est un peu trompée. Parce qu'elle a eu une approche.
Je crois que vous disiez vous-même tout à l'heure qu'il fallait faire quelque chose sur les algorithmes.
Il faut faire quelque chose, mais je pense qu'il faut attaquer par le modèle économique, c'est-à-dire qu'il faut interdire un certain nombre de fonctionnements, les fonctionnements, des modes de fonctionnement de l'algorithme. On va pas rentrer dans la technicité.
On est un peu d'accord pour finir, mais ça vous embête quand il faut réguler, quand même.
Non, je dis l'inverse, au contraire. Je dis qu'il faut beaucoup réguler. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'Europe s'est pas quand même pas mal trompée dans la façon d'attaquer les GAFA. D'abord, en mettant tous les GAFA dans le même sac, je crois que c'est une profonde erreur de dire que avec cet acronyme, Apple et Facebook sur la protection des données n'ont rien à voir. Il y en a un qui a construit son modèle plus tôt et d'ailleurs fait payer très cher la protection des données et Facebook est pas du tout là-dessus. Mettre Google, Amazon, ça dans le même sac, il n'y a pas beaucoup de sens. Et d'avoir attaqué principalement on est obsessionnel, je comprends pour partie, sur les questions fiscales et sur les questions de monopole. Mais l'Europe s'est très peu intéressée jusqu'à maintenant au contenu. La façon de réguler les contenus, et on a une vraie difficulté là-dessus. Et il faut peut-être se dire que politiquement, et pour le bien-être de la démocratie, c'est sur les questions de contenu qu'il faut mettre davantage l'accent en trouvant les choses intelligentes. Pourquoi j'ai un doute sur le fait que les États-Unis n'iront pas forcément très loin, et je finis là-dessus, c'est que s'ils avaient vraiment voulu aller très vite et très loin, ils l'auraient fait juste après ce qui s'est passé au Capitole. On s'approche d'un an après et pour l'instant rien n'a été fait.
Et on attend le témoignage de cette lanceuse d'alerte pour peut-être agir. Il y a d'autres réseaux sociaux au monde, je pense à TikTok, le réseau social chinois qui ne cesse de grandir. Est-ce que ce débat, il ne va pas être freiné aussi par la guerre commerciale avec la Chine? Parce qu'il y a aussi une concurrence au niveau mondial des réseaux sociaux.
C'est pour ça qu'il faut absolument développer des législations qui ne puissent pas être accusées de nationalisme ou de régionalisme européen, états-unien, chinois et qui s'appliquent de façon façon globale. Donc, par exemple, de dire, voilà, toutes les plateformes qui touchent plus de 10% de la population, on a une régulation. Il y a des plateformes européennes, d'ailleurs, comme Booking, qui est néerlandais, qui seraient touchées et qui abusent complètement aussi de leur position dominante vis-à-vis des hôtels, des locations. Sur les questions fiscales, on a eu cette semaine, là, la suite des Panama Papers, qui montre que les choses sont arrivées. Là, c'est pareil, il faut pas se focaliser, je suis d'accord pour le coup, c'est-à-dire les GAFA, mais on a aussi Total, L'Oréal, qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Donc, il faut des réponses qui soient des réponses globales, y compris sur nos propres entreprises.
Transition sur les Pandora Papers, justement.
Il est très fort.
On a tout préparé à l'avance, Dominique. C'est l'autre actualité de la semaine, effectivement. Ces milliards d'euros dissimulés dans des sociétés offshore par des dizaines de personnalités à travers le monde. Tout cela pour échapper à l'impôt. On n'en finira jamais avec l'évasion fiscale, Dominique.
Moi, je vois le vert dans l'autre sens, plutôt. La multiplication de ce type d'informations, de papers, et il y en a quand même maintenant tous les 6 mois, en gros, par un biais, de sortie de documents, etc., montre que ça devient de plus en plus difficile. Alors, évidemment, les Pandora Papers, il y a quand même une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont concernés. Alors, c'est le chef d'État et de gouvernement, le roi de Jordanie, vous avez le Premier ministre tchèque, vous avez Tony Blair, ancien. Alors, il y a des choses légales et illégales. Après, il y a de l'illégal, il y a de l'abus, on parle de Dominique Strauss-Kahn, il est domicilié, je crois, au Maroc maintenant, et il a des activités internationales. Donc, est-ce que c'est légal ou illégal? Ce qui est néanmoins vrai, c'est que je crois que il y a eu un tournant radical il y a quelques années quand les États-Unis ont imposé la fin du secret bancaire en Europe. C'est un changement absolument considérable. Et petit à petit, ces données ne sortent pas par hasard.
Dominique, vous êtes trop optimiste, Dominique.
Et le problème, c'est ma nature.
Ça dépend pour qui quand même. Mais en tout cas, là, je veux dire qu'on ne se donne pas les moyens en fait d'évaluer si on fait vraiment des progrès. Et on peut pas se contenter d'enquêtes journalistiques qui vont dénoncer des scandales individuels. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre en place un système d'observation des patrimoines, des plus hauts portefeuilles financiers dans le monde, en Europe, aux États-Unis, et de voir est-ce qu'on fait des progrès ou pas dans le recouvrement des impôts, combien paye comme impôt effectivement. Vous savez, il y a eu l'enquête de ProPublica aux États-Unis avant l'été qui montrait que les milliardaires américains ne payaient quasiment aucun impôt fédéral sur le revenu. Moi, je pense que c'est la même chose en France. Il faut que le gouvernement publie ces données année après année pour qu'on se rende compte et on verra que les progrès ne sont absolument pas là.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seux, pour ce débat éco. Le journal à suivre. France Inter.